Portrait d'hier, Gérard de Nerval par Henri Strens. Les hommes ne sont mystérieusement sensibles qu'aux poètes qui n'oublièrent pas qu'en pleine détresse du vivre, parfois, des heures merveilleuses s'allument. Un poète toujours heureux ne les émeut guère. Un poète sans cesse larmoyant les excède. Peut-on suggérer ainsi la séduction toujours vive de la personnalité souriante et tragique de Gérard de Nerval? La vie de cet attachant écrivain passa tour à tour du ravissement à une douleur voilée, presque pudique. À lire son œuvre, surtout faite de fragments, on a l'émotion d'aller dans un cimetière plein de stèles brisées, honorant des adolescents qui moururent sans donner leurs fruits. Gérard de Nerval ne fut-il pas, en effet, l'un de nos plus touchants tresseurs de guirlandes printanières? Rares sont parmi les poètes ceux qui accédèrent comme lui dans les domaines privilégiés du rêve. Il fut le plus libre des hommes en croyant à toutes les fois. Curieux et enthousiaste, rien ne l'enchaîna que l'amour. Sans défiance, il commit toutes les imprudences de l'être qu'aucun avertissement ne peut retenir. Et son existence s'écoula à respirer les fleurs des champs en souvenir d'une enfance idyllique vécue sous le ciel le plus nuancé de notre pays et les tubéreuses des jardins défendus où s'empoisonna son intelligence avide de tant de secrets. Souvenons-nous du dangereux empressement avec lequel, à 18 ans, il a couru se mettre au service du merveilleux, sous la conduite de Méphistophélès. Il nous semble lui entendre dire avec la soumission heureuse d'Ariel à Prospero « Pardon, maître, je me conformerai au commandement et je ferai gentiment mon métier d'esprit. » Son métier d'esprit. Il l'accomplit avec un zèle infatigable. Toute sa vie est une obéissance au désir d'une imagination jamais au repos et à deux passions qui n'en font qu'une, sa fidélité à une terre unique et l'adoration d'une âme intangible. Si Chopin eut la révélation de son génie, suivant ce que nous en rapporte Liszt, d'avoir vu danser enfant les belles polonaises endiamantées sous les lustres des salons de Varsovie, ce fut en assistant aux rondes des jeunes villageoises de l'Île-de-France que Gérard de Nerval sentit sa vie s'emparer du charme qui le rendra immortel. La noblesse de la douleur le sacre davantage à nos yeux. Cet artiste, au cœur délicat, d'où émane un rayon de si tendre joie, fut un grand mélancolique. L'éternelle damnation de Prométhée pèse sur son destin. Un point noir est resté dans mon regard avide. Cri de malheur de celui qui, d'un œil trop frais, contemple impunément le soleil et la gloire. Toujours entre ce maudit et le bonheur apparaîtra l'ineffaçable point noir. Il entachera ses plus aimables visions. De plus, la femme, sans le vouloir, sera cruelle pour cette âme trop candide. Aussi, toujours la verra-t-il empreinte d'une sorte de grandeur mythique et lui inspirera-t-elle une instinctive terreur secrète. Vous l'avez aperçue, sans doute, avec sa tête au col flexible qui se dresse sur son corps penché. Nous confie-t-il de la fée du Rhin, la Lorelai. Sa longue chevelure blonde tombe à droite sur ses blanches épaules comme un fleuve d'or qui s'épancherait dans les eaux verdâtres. Son sourire est doué d'une grâce invincible et sa bouche entr'ouverte laisse échapper les chants de l'antique sirène. Pour avoir trop regardé le sourire d'une ondine fatale, qui, bien que charmeuse de foule, ne pouvait atteindre à la hauteur de ses rêves trop purs, Une flamme embrasa son rêve et sa lueur grandissante l'entraîna de plus en plus hors de la vie. Il n'était pas de son temps quand il passa parmi les hommes. D'aucuns le trouvaient suranné. Aujourd'hui, il est un des rares écrivains qui apparaissent vraiment jeunes parmi de bruyants contemporains déjà couverts de rides et de poussière. On le trouvait périmé, il annonçait l'avenir. Tout en lui respirait la poésie, l'esclavage confiant de la beauté. Ses amis les plus sceptiques s'attendrissaient devant son déchirement mystérieux. Il avait dans la voix des inflexions si douces qu'on se prenait à l'écouter comme on écoute un chant. « Tous ceux qui ont entendu cette voix ne l'oublieront jamais », nous apprend un témoin de sa vie. Une ferveur captivante, faite d'une sorte de souffrance heureuse, monte à jamais du souvenir de cet ange terrestre dont l'amour malheureux fut l'aliment presque absolu, et qui, sous l'égide des fées bonnes et mauvaises, fut un très pur poète en même temps qu'un homme simple et bon. Il y aura 102 ans, le 21 mai prochain, que naquit à Paris, rue Saint-Martin 96, Gérard de Nerval. Son père, Gérard Labruni, de Nerval fut un pseudonyme pris par son fils dans la vie littéraire, était chirurgien dans l'armée de Napoléon. Gérard de Nerval connut à peine sa mère. Celle-ci, pour accompagner son époux vers les steppes de la Russie où l'empereur entraînait ses soldats, le confia, âgé de 18 mois, aux soins d'un de ses frères qui habitait Montagny, petit village du Valois. On imagine l'influence providentielle que dut exercer sur la sensibilité de cet enfant quasi orphelin la contemplation d'une campagne au fin paysage de prairies et de bois sillonnés de clairs ruisseaux chanteurs, sous un ciel délicat, parsemé d'agiles nuages, et quelle dut être sa vie parmi une population à l'image heureuse de cette province encore fidèle aux coutumes de la vieille France. Gérard atteignit sa 7e année. On connaît ce récit de sa première entrevue avec son père. On ne résiste jamais à l'émotion de le reproduire. Je jouais, insoucieux, sur la porte de mon oncle quand trois officiers parurent devant la maison. L'or noirci de leurs uniformes brillait à peine sous leurs capotes de soldats. Le premier m'embrassa avec une telle effusion que je m'écriais « Mon père, tu me fais mal !» L'étreinte lui avait révélé la qualité de l'étranger. « Tu me fais mal !» N'est-ce pas déjà le cri de douleur qui devait si particulièrement lui arracher la vie ? « De ce jour, mon destin changea, » ajoute-t-il. Sa mère était morte à 25 ans, là-bas, d'une fièvre qu'elle gagna en traversant un pont chargé de cadavres, où sa voiture manqua d'être renversée. Elle reposait dans un cimetière de la Silésie. Deux soldats accompagnaient son père. Tous trois revenaient du siège de Strasbourg. Le plus âgé, sauvé des flots de la Bérézina glacée, me prit avec lui pour m'apprendre ce qu'on appelait mes devoirs. Le soldat qui les servait eut l'idée de me consacrer une partie de ses nuits. Il me réveillait avant l'aube et me promenait sur les collines voisines de Paris, me faisant déjeuner de pain et de crème dans les fermes ou dans les laiteries. Singulière éducation, bien capable d'avoir imprimé à cette âme fraîche le plus inguérissable des penchants, la poésie. Bientôt, Gérard quitta le Valois pour entrer comme externe libre au collège Charlemagne. Il y fut un élève des plus brillants. Sous la direction paternelle, sa culture classique se compléta de l'étude de l'italien et de l'allemand, et quelque peu de celle de l'arabe et du persan. Mais toutes ses vacances d'écolier, il venait les passer chez son oncle à Montagny. Là, il reprenait sa vie rustique d'autrefois, avec ses amis, les petits paysans, parmi l'affection de jeunes tantes et d'adolescentes cousines. C'étaient des courses sans fin, parmi les champs et les bois, des équipées en bandes joyeuses, chansons aux lèvres, parmi ces localités aux noms délicieux. Ève, Vert, Otis, Loisy, Chahali, Ermenonville, avec des arrêts au bal villageois où il faisait danser ses compagnes. Une fois, il y fut témoin d'une fête de jeunes gens qui devait lui laisser dans le cœur un immortel souvenir que nous évoquerons bientôt. De 1826 datent ses premiers poèmes, deux élégies, Napoléon et la France guerrière et La mort de Talma, vers qu'il réunira à ceux de son prochain recueil. Puis, une comédie en un acte, L'Académie et les membres introuvables. En cette dernière œuvre, pleine d'une juvénilité frondeuse, notre adolescent rompt ses premières lances contre la vieille institution du Pont des Arts. Il y témoigne, d'une façon assez mordante, de son tempérament spirituel éminemment français. Il est vrai que notre poète de 17 ans épanche là sa jeune rancune. L'Académie n'a-t-elle pas commis l'injustice de ne pas couronner un mémoire qu'il lui a adressé sur la poésie du XVIe siècle? Mais le sang qui lui vient d'un soldat de la Grande Armée est épique. Enfant ébloui, il a assisté, au champ de mai, à la distribution des aigles. L'année suivante, paraissent les élégies nationales et satires politiques. Imité de Casimir de la Vigne, de Béranger, cette œuvre se compose de poèmes à la gloire de Napoléon et de satires contre les jésuites. Poèmes rapidement écrits, remarquables seulement par la précoce facilité de leur auteur et le culte passionné que celui-ci vouait au grand capitaine. L'œuvre eut une belle presse. En quelques jours, trois éditions furent épuisées. Quelle gloire pour un écrivain qui usait encore ses culottes sur les bancs du collège. Ses études sont terminées. Gérard a 18 ans et vit au matin de ce siècle qui jouit de la divulgation de l'œuvre poétique d'André Chénier et fête en même temps la résurrection de Ronsard, dédaigné depuis presque deux siècles. La possession complète de l'allemand incite Gérard à traduire pour une édition populaire, moitié prose, moitié vers, le Faust de Goethe. Il y réussit d'une façon si intelligente que son immortel auteur lui envoie de Weimar un billet enthousiaste. Cette descente en pleine adolescence aux arcanes du génie germanique l'imprégnera pour toute sa vie d'une sorte de dangereux vertige. La limpidité de son esprit s'y teintera des fumées du rêve allemand, mais son style n'y perdra aucune de ses qualités natives de finesse et d'élégance. 1830 le trouve aux côtés d'Hugo à la première d'Hernani. Il est un des organisateurs de cette soirée épique du 25 février où toute une jeunesse bigarrée et farouche proclama au cri insolent et naïf, mille fois répété de « mort aux perruques », la naissance d'un esprit nouveau. C'est lui qui distribue le fameux petit carré rouge griffé par le maître du mot de passe, « hiero », qui permettra l'accès du parterre à la claque belliqueuse d'écrivains et de peintres qu'il a été chargé de recruter. Il fréquente les plus excentriques compagnons littéraires, les truculents sous les singularités d'un Petrus Borel, d'un Augustus Mackit, d'un Philothée Onedi, d'un Napoléon Thom ne l'effare point. Et cependant, il n'a rien d'un jeune France, ni d'un Boussingault. C'est un jeune homme, modeste et timide, aux cheveux blonds un peu clairsemés, au beau front pâle, au nez fin, de forme légèrement aquiline, à la bouche gracieuse, avec la lèvre inférieure un peu épaisse, signe de bonté. Facilement il rougit. Ni les redingotes soutachées, les polonaises à brandebourgs, les pourpoints chatoyants, les manteaux à l'espagnol de son pittoresque entourage, pas même le gilet de satin écarlate et les longs cheveux de Théo, son meilleur ami, n'en imposent à sa nature plus subjective qu'objective. Il va par la vie vêtu d'un simple paletot bleu foncé ou d'une sorte de redingote d'étoffe noire brillante aux vastes poches où il enfouit une bibliothèque de bouquins récoltés çà et là, 5 ou 6 carnets de notes et tout un monde de petits papiers sur lesquels il écrit d'une écriture fine et serrée les idées qu'il prend au vol pendant ses longues promenades. De quel prestige jouit donc ce jeune homme pour mériter l'absolution de ses excessifs compagnons, si intransigeants sur la question du costume et des allures, eux qui, sévèrement, osent reprocher à Hugo, leur dieu, ses vêtements bourgeois? C'est qu'ils sentent brûler en lui la flamme du plus pur lyrisme et qu'il est le seul vrai lettré de leur bande. En outre, il annonce déjà celui qu'on appellera pour la délicatesse et la loyauté de son caractère, son dévouement à l'amitié, le bon Gérard. Sa conversation est éblouissante, quoiqu'il commence à vivre dans un presque constant état d'absence qui oblige l'ami qu'il rencontre dans la rue à ne pas l'aborder brusquement, de peur de le faire tomber du haut de son rêve comme un somnambule qu'on réveillerait en sursaut, se promenant les yeux fermés et profondément endormi sur le bord d'un toit. Une irrésistible inclination le pousse depuis longtemps vers l'étude des sciences occultes. Il s'y abandonne avec une inquiétante ardeur. Son âme est pleine de superstitions, croyance à la métempsycose, à la transmigration des âmes, aux signes fatidiques. Il était de ceux qui, en hiver, raconte Théophile Gautier, mettent leur paletot en gage pour acheter une épingle en turquoise ou un anneau cabalistique. Aussi doit-il suivre d'un œil amusé, lui qui a toutes les curiosités et toutes les indulgences, les fantaisies les plus extravagantes de ses amis, et boire sans étonnement avec eux dans un crâne humain que l'on se passe à la ronde en guise de coupe, et que d'ailleurs lui-même, Gérard, a dérobé à la collection anatomique de son père, le chirurgien-major, lequel crâne avait fait partie intégrante, assure Gautier, d'un tambour-major tué à la Moscova. Déjà, chez Gérard, l'écrivain est accompli. Aussi pourra-t-il traverser le romantisme sans que son œuvre s'y entache des marques indélébiles de cette intempérante école. Alors que ses compagnons abuseront des clairs obscurs et des couleurs les plus outrées, lui de plus en plus se plaira dans les gammes tendres, les pâleurs délicates et les gris de perles, chères à l'école française de l'autre siècle. 1830, c'est aussi l'année où il fait paraître sa traduction en prose de poésies allemandes. Il révélait en France les morceaux les plus populaires des œuvres de Goethe, Schiller, Klopstock, Berger, Uhland, Körner, Jean-Paul Richter, Hoffmann, auxquels plus tard il joindra ceux d'un poète qui deviendra un ami très cher et dont le fin génie ne sera pas sans affinité avec le sien, Henri Heine. L'ambition de la plupart de ces poètes, qui allaient jusqu'à réclamer comme patrimoine national les rêves de la fièvre et le royaume des esprits, selon l'expression de l'un d'eux, était bien faite pour séduire la nature mystique de Gérard, déjà si profondément inféodé au rêve allemand. Enfin, 1830, c'est l'année où il vit pour la première fois Jenny Colomb. Pour se rendre compte de la surprise profonde qu'apportait dans la vie de Gérard cette rencontre, il est nécessaire de revenir une demi-douzaine d'années en arrière et placer ici la féerique anecdote toujours redite avec émotion, car il n'est pas de plus virginal conte d'amour que tout biographe pieux de Gérard de Nerval ne peut se dispenser de reprendre, puisqu'elle est le centre merveilleux autour duquel doit tourner la vie de notre héros. C'était durant la période des vacances, dans son bien-aimé Valois. Chaque fois, il y retrouvait de tendres compagnes, car toujours en garçon timide et doux, il avait préféré la société des filles à celle des garçons. Là, tantôt l'une, tantôt l'autre, par une chanson, une expression de terroir, voire même un attrape-nigaud, initiait gaiement le Parisien aux coutumes de leur aimable pays. Mais parmi toutes ses petites amies, il avait toujours eu une prédilection marquée pour l'une d'elles nommée Sylvie. Chaque année, il la retrouvait plus charmante, si vive et si fraîche avec ses yeux noirs, son profil régulier et sa peau légèrement hâlée. Et c'était surtout en sa sentimentale et rieuse société qu'il faisait ses promenades les plus chères. Or, un soir, probablement vers la mi-septembre, à l'orée de ces longs crépuscules qui rendent l'âme si sensible dans la nature si émouvante, tous deux s'arrêtèrent devant la grille de ce château de briques à coins de pierre, aux vitraux teints de rougeâtre couleur, sein de grand parc, avec une rivière baignant ses pieds, qui coule entre les fleurs. Château qui deviendra immortel par la fidélité du souvenir du poète. Comme dans les villages aux seigneurs accueillants de nos plus aimables légendes, des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse, en chantant de vieux airs transmis par leur mère, et d'un français si naturellement pur que l'on se sentait bien exister dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de 1000 ans, a battu le cœur de la France. La main dans la main, ils allèrent se mêler à cette ronde. Gérard était toute tendresse pour sa petite amie. Je n'aimais qu'elle. Je ne voyais qu'elle jusque-là. C'est à peine s'il avait remarqué parmi les danseuses une belle et grande jeune fille blonde, dont il devait apprendre le nom volant respectueusement sur les lèvres des jeunes villageoises. Adrienne. Gérard était le seul garçon de cette assemblée. Tout à coup, suivant les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu du cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser. En lui donnant ce baiser, je ne pus m'empêcher de lui presser la main. Les longs anneaux roulés de ses cheveux d'or effleuraient mes joues. De ce moment, un trouble inconnu s'empare de moi. La belle devait chanter pour avoir le droit de rentrer dans la danse. On s'assit autour d'elle et aussitôt, d'une voix fraîche et pénétrante, légèrement voilée comme celle des filles de ce pays brumeux, elle chanta une de ces anciennes romances pleines de mélancolie et d'amour qui racontent les malheurs d'une princesse enfermée dans sa tour par la volonté d'un père qui la punit d'avoir aimé. Cette belle jeune fille, Gérard croyait la reconnaître. Où donc l'avait-il déjà rencontrée? Dans une autre vie, peut-être? À mesure qu'elle chantait, l'ombre descendait des grands arbres et le clair de lune naissant tombait sur elle seule, isolée de notre cercle attentif. Elle se tut et personne n'osa rompre le silence. La pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées qui déroulaient leurs blancs flocons sur la pointe des herbes. Nous pensions être au paradis. Je me levai enfin, courant au parterre du château où se trouvaient des lauriers. Il y confectionne une couronne qu'il revient poser sur les cheveux d'or d'Adrienne. Elle ressemblait ainsi, sous les rayons pâles de la lune, à la Béatrice du Dante qui sourit au poète errant sur la lisière des saintes demeures. En outre, on la disait la petite fille de l'un des descendants d'une famille alliée aux anciens rois de France. Le sang des Valois coulait dans ses veines. Comment résister à de tels prestiges quand on a 15 ans et l'âme émerveillée d'un poète? En un instant, la hantise d'un bonheur extraterrestre avait pris la place de la tendresse qu'il nourrissait pour sa petite amie d'enfance. La demoiselle du château, qui s'était mêlée d'une façon si charmante au jeu des humbles filles du village, avait salué l'assemblée, puis était partie, laissant le jeune rêveur sous le coup de la plus affolante apparition. Quand Gérard revint auprès de Sylvie, celle-ci pleurait. Il lui offrit d'aller aussi lui cueillir une couronne. Elle refusa et il s'aperçut qu'il lui avait déchiré le cœur. C'était la fin des vacances. Rappelé à Paris par ses études, Gérard y remportait cette double image d'une amitié tendre tristement rompue, puis d'un amour impossible et vague, source de pensées douloureuses que la philosophie de collège était impuissante à calmer. La figure d'Adrienne reste seule triomphante. Aux vacances suivantes, il sut que l'aristocratique et belle jeune fille, qu'il lui semblait de plus en plus avoir connue dans une vie antérieure, avait pris le voile et vivait recluse au fond de quelque couvent. Gérard ne devait plus en entendre parler que pour, longtemps après, apprendre sa mort. Jenny Collomb était une comédienne qui, plus tard, mue par une irrésistible vocation pour le chant, entra à l'Opéra-Comique où elle eut quelques succès. Elle était la séduction même, par sa bonté de blonde aux yeux bleus et sa voix d'une grande douceur. Gérard ne perçut pas tout de suite la raison qui le poussait vers cette femme et qui ne se traduisait que par une sorte d'admiration extasiée. Enfin, dans un accord fait un peu de ressemblance physique, mais beaucoup de concordance mystérieuse entre l'inoubliable chanteuse du château et la belle comédienne, il comprit la raison profonde de cette attirance invincible. Sa foi en la transmigration des âmes ne lui permit pas d'hésiter. Tout m'était expliqué. Cet amour vague et sans espoir, conçu pour une femme de théâtre, qui, tous les soirs, me prenait à l'heure du spectacle pour ne me quitter qu'à l'heure du sommeil, avait son germe dans le souvenir d'Adrienne. Aimer une religieuse sous la forme d'une actrice. Et si c'était la même, il y a de quoi devenir fou. C'est un entraînement fatal où l'amour vous attire comme le feu follet fuyant sur les joncs d'une eau morte. Et chaque soir, au théâtre, la contemplation de son idole lui apportait une nouvelle confirmation de sa croyance. Mais il s'en tenait à une admiration distante. Vue de près, la femme révoltait notre ingénuité. Il fallait qu'elle apparût reine ou déesse et surtout n'en pas approcher. Et ce n'était pas une attitude empruntée à l'époque où il vivait de mépriser les amours charnels. Son tempérament était tendre et platonique. En outre, qui pouvait mieux apparaître à Gérard reine ou déesse qu'une femme de théâtre? À un de ses amis qui, à le voir fréquenter depuis des semaines la même salle de spectacle, avait cru le surprendre en flagrant délit d'infraction à ses principes, gravement il avait répondu « Moi, c'est une image que je poursuis et rien de plus. » Expression pure de sa sincérité. C'était une image qu'il poursuivait en cette femme, l'image de l'ange intangible, seul capable de lui donner la direction suprême. Il la recherchait vainement, depuis que s'était évanouie l'apparition qui lui en avait donné la notion impérissable. Une image devant laquelle il devra rester en contemplation jalouse, sans jamais essayer de l'approcher. Aussi, lorsque d'inconséquents amis l'auront, malgré ses résistances, présentée à la belle actrice, commenceront les désordres que la réalité apporte immanquablement à un amour planant trop au-dessus des humaines contingences. Et il n'en sera pas seule victime. L'aimable actrice, à qui on ne peut faire un crime de n'avoir pas compris l'exaltation mystique d'une telle passion, et qui n'aura pas toujours le sens qu'elle doit sans cesse se refuser, y laissera quelques années de sa plus belle jeunesse. Aussi, comment qualifier sinon d'incomparable la patience dont elle fit preuve pour supporter si longtemps la manière étrange que Gérard avait de lui faire sa cour. Un soir, il est au théâtre, tout au plaisir de contempler celle qui, en cette pièce, se révèle grande artiste. Pendant le quatrième acte, où elle ne paraissait pas, j'allais acheter un bouquet. J'y insérais une lettre fort tendre, signée « Un inconnu ». Je me dis « Voilà quelque chose de fixé pour l'avenir ». Et le lendemain, j'étais sur la route d'Allemagne. Une hésitation constante à prendre pied dans la réalité toujours le tourmente et ruine ce qui aurait pu, avec plus de détermination, être son bonheur. Il sentait, au fond, l'impossibilité pratique de dualité de sa passion. « Si j'écrivais un roman, me confiera-t-il un jour, jamais je ne pourrais faire accepter l'histoire d'un cœur épris de deux amours simultanés. » C'est cependant ce qu'il s'acharne à poursuivre. Le culte de son idole ne le soustrait pas toutefois au devoir de l'art et de l'amitié. En 1835, sortant de Sainte-Pélagie, où il a subi un emprisonnement pour rire de quelques jours à cause d'un délit déclaré politique, bien qu'il ne fût que de tapage nocturne et dû à l'inconvénient de fraterniser après ripaille avec des compagnons excités et par trop bruyants un soir d'émeute, Gérard, qui venait de recueillir un petit héritage, loua en commun avec Arsène Housset et le peintre Camille Rogier, impasse du doyenné, le vaste salon d'un vieil hôtel. Ce quartier était alors l'endroit de Paris le mieux fait pour ravir un amateur du pittoresque. En face de la grandiose harmonie du Louvre, non loin du carrousel, pullulaient dans le désordre le plus fou de minables maisons, véritables débris du Moyen-Âge, parmi des chantiers de pierre, des terrains vagues, où chaque jour affluait tout un peuple de sacs et de cordes, autour de prestidigitateurs, d'arracheurs de dents, de banquistes de toutes sortes, dont le futur auteur de « La main enchantée » dut faire son profit. Gérard consacra la meilleure partie de son héritage à déclorer de lampades, des frocs renaissance, à garnir de lustres, de bahuts, de colonnes leur nouveau local. Des amis peintres rafraîchirent de leurs juvéniles pinceaux les murailles de la vétuste maison. Corot y brossa deux paysages, Vatier un vateau, Nanteuil des dessus de porte, de Châtillon un moine rouge. Chasseriau, deux bacchantes. Théophile Gautier lut en cet endroit ses premiers vers, pendant que Cydalis Ier, ou Laurie, ou Victorine, se balançaient nonchalamment dans le hamac de Sarah la Blonde, tendu à travers l'immense salon. Il y fut donné des bals costumés, des soupers, des fêtes. On y joua la comédie. Ce furent les temps dorés de la bohème romantique. Ceux où Gérard, cependant que scintillait au ciel de son amour l'étoile de l'espoir, vécut les meilleures heures de sa jeunesse. Ses amis se gardaient bien d'interroger sur ses spéculations sentimentales cette âme discrète et pudique, rougissant comme Psyché, et à la moindre approche de l'amour, se renfermant sous ses voiles. À Arsène Housset, qui lui avait rimé ses vers badins, « D'où vous vient, ô Gérard, cet air académique? Est-ce que les beaux yeux de l'opéra comique s'allumeraient ailleurs? La reine du sabbat, qui depuis deux hivers dans vos bras se débat, vous échapperait-elle ainsi qu'une chimère ?» Et Gérard répondait « Que la femme est amère. » L'amant respectueux avait répliqué vivement « Pourquoi du sabbat, mon cher ami? Et pourquoi jeter maintenant de l'absinthe dans cette coupe d'or moulée sur un beau sein ?» Et le mélancolique adorateur lui rappelait certains vers de lui-même, Arsène Housset, dans lesquels celui-ci avouait pareillement sa volupté à aimer une belle chimère. La reine de Saba, c'était bien celle, en effet, qui me préoccupait alors, nous a confié Gérard, et doublement. Le fantôme éclatant de la fille des Émiarites tourmentait mes nuits sous les hautes colonnes de ce grand lit sculpté, acheté en Touraine, et qui n'était pas encore garni de sa brocatelle rouge à ramage. Les salamandres de François Ier me versaient leurs flammes du haut des corniches où se jouaient des amours imprudents. Elle m'apparaissait radieuse, comme au jour où Salomon l'admira, s'avançant vers lui dans les splendeurs pourprées du matin. Elle venait me proposer l'éternelle énigme que le sage ne put résoudre. Et ses yeux, que la malice animait plus que l'amour, tempéraient seuls la majesté de son visage oriental. Qu'elle était belle, non pas plus belle cependant qu'une autre reine du matin, dont l'image tourmentait mes journées. Cette dernière réalisait vivante mon rêve idéal et divin. C'est pour faire débuter à l'opéra l'obscure comédienne devenue une célèbre cantatrice qu'il va porter à Meyerbeer un livret nécessairement intitulé « La reine de Saba ». J'aurais réuni ainsi dans un trait de flamme les deux moitiés de mon double amour, nous explique-t-il. Gérard vit inquiet et malheureux, au milieu de scrupules, de perpétuelles hésitations, où le plonge sans cesse sa passion incompréhensible. À plusieurs reprises, au moment d'être agréé, il est pris d'une terreur qui le force à fuir sa belle actrice, pour revenir vers elle, soumis et repentant. Tout est à recommencer. C'est durant un de ces exils volontaires qu'il parcourt l'Allemagne pour la première fois. Il y promène ses rêves étranges et trop purs, son âme blessée, sous les tilleuls, non loin de la rive où le vieux fleuve roule ses flots légendaires. Mais le Rhin est perfide, il y a trop de Lorelai qui chantent le soir dans les ruines des vieux châteaux. Il descend alors vers l'Italie, promener son infortune. Ses voyages ne font qu'aggraver sa douleur. Un soir, le retrouve inopinément réinstallé dans un fauteuil du théâtre de son idole. Et plusieurs années se passent à fuir et à revenir, sans arrêt, vers l'objet de ce qu'il appelle un amour contrarié, pour ne pas oser dire impossible. J'ai été timide et dévoué plus qu'un homme ne le devrait montrer, écrit-il un jour d'Italie à Jenny Colomb. J'ai entouré mon amour de tant de réserves, j'ai craint si fort de vous offenser, vous qui m'en aviez tant puni une fois déjà, que j'ai peut-être été trop loin dans ma délicatesse et que vous avez pu me croire refroidi. Eh bien, j'ai respecté un jour important pour vous. J'ai contenu des émotions à briser l'âme et je me suis couvert d'un masque souriant, moi dont le cœur haletait et brûlait. D'autres n'auront pas eu tant de ménagements, mais aussi, nul que vous a peut-être éprouvé tant d'affection vraie et n'a si bien senti tout ce que vous valez. Protestation d'amour aussi compliquée que les méandres du cœur d'un noble poète timide. Malgré ses perplexités et ses exils sur les routes étrangères, Gérard produisait des œuvres nombreuses. En 1837, il fait représenter un opéra comique, Piquillo, en collaboration avec Alexandre Dumas, musique de Montpoux. 2 ans plus tard, un drame, L'Alchimiste, encore avec Dumas. Et cette même année, à un retour des pays rhénans, un autre drame, Léo Burckhardt. Cette pièce méritait mieux que les 30 représentations qu'elle eut au théâtre de l'Odéon. L'acte où Léo Burckhardt assiste à sa propre condamnation à mort par défaut, sous le masque et le costume d'un conjuré, est d'une œuvre qui aurait dû plaire au public friand des mœurs des sociétés secrètes vers cette époque. Il fallut vraiment, malgré la qualité de ses interprètes et leurs efforts, que la mauvaise volonté d'un directeur s'alliât à une mise en scène déplorable pour ne pas assurer à cette pièce un succès certain. En tous les cas, c'est le meilleur ouvrage dramatique de Gérard. Et si on le reprenait aujourd'hui, il serait loin de faire mauvaise figure. Cette année vit également la représentation au même théâtre d'une comédie charmante, Tartuffe chez Molière, 3 actes qui furent très applaudis. Depuis 7 années bientôt, dure sa servitude à la beauté qui lui semble détenir l'âme mystérieuse qu'il adore depuis son adolescence, sans qu'il ait fait un pas de plus que le premier jour, vers d'enchaînantes réalités. L'actrice est lasse de ce rebutant adorateur, au culte bizarre et sans issue. Gérard va se vaincre, mais avant, il veut tenter une concluante épreuve. Un jour, la troupe à laquelle appartient Jenny Colomb et que Gérard a suivi en qualité de seigneur poète va jouer à Chantilly. Sur ces instances, les acteurs consentent à donner une représentation à Senlis et à Dammartin. Un après-midi, ils louent 2 chevaux de selle et, à la tombée de la nuit, entraînent l'actrice, vêtue d'une amazone et belle comme une reine d'autrefois, avec ses cheveux d'or dénoués au vent, sur les lieux mêmes où Adrienne s'est révélée à ses yeux et la supplie enfin de se démasquer. Nulle émotion ne parut en elle. Alors, je lui racontai tout. Je lui dis la source de cet amour entrevu dans les nuits, rêvé plus tard, réalisé en elle. Elle m'écoutait sérieusement et me dit « Vous ne m'aimez pas. Vous attendez que je vous dise « La comédienne est la même que la religieuse. Vous cherchez un drame, voilà tout, et le dénouement vous échappe. Allez, je ne vous crois plus. » Ainsi, la trop patiente fille se délivrait des interminables tergiversations d'un soupirant par trop indécis. Le poète, lui, sentait se déchirer le voile qu'il avait si longtemps séparé de la réalité et finissait par s'avouer que ses rêves, ses pleurs, ses désespoirs et ses tendresses n'étaient pas de l'amour, mais la poursuite maladive d'un absolu qu'il ne pourrait jamais étreindre. Jenny Colomb finit, en 1838, par épouser un flûtiste et par vivre dans un monde de contingences plus matérielles, mais moins déconcertantes. L'actrice fut-elle vraiment insensible au culte inlassable que lui voua son adorateur? Certaines lettres publiées dans le rêve et la vie, pourrait faire supposer le contraire. Cependant, le doute à cet égard de Théophile Gautier, qui eut avec Gérard une de ces amitiés d'enfance que la mort seule dénoue, porte un coup à cette assertion. Gérard de Nerval franchissait en idée toutes les phases intermédiaires d'une liaison qui n'était pas même commencée. Il n'avait pas encore adressé la parole à l'objet de sa flamme, qu'il regardait son désir comme accompli déjà. Le même témoin ajoute : l'histoire de ses amours restera toujours obscure. Il fonda un journal, il fit des pièces pour se rapprocher de son idole. Il écrivit des lettres passionnées et charmantes qu'il mit sans doute à la poste dans sa poche, car celle à qui elle s'adressait en eût été touchée. Déclara-t-il jamais formellement sa flamme ? Nous l'ignorons. Qu'importe d'ailleurs la vérité sur cet amour. Par lui, Gérard porte au cœur une blessure dont il ne guérira jamais. Le travail de cette passion a remué profondément la nature si sensible de notre héros. Tout a changé dans sa vie depuis la rencontre de cette femme. Le traducteur, le poète livresque est devenu poète de ses propres émotions. Ses œuvres, maintenant, se mêleront intimement à sa vie. Le charme qui fera notre enchantement est né. Gérard ne peut se remettre d'avoir été si cruellement déçu par une déité à laquelle il s'est de toute son âme si loyalement abandonné. Il n'a plus qu'à oublier. Mais la pratique des sciences occultes dans laquelle il se rejette comme dérivatif est un remède pire que le mal. Sa foi en les plus étranges superstitions s'accroît encore dans cette période de repliement sur lui-même. Elle s'aggrave de vision. Un jour, il voit son double. Gérard cède à la croyance allemande qui veut qu'une pareille manifestation révèle la mort prochaine de celui qui en est l'objet. Toutefois, il ne meurt point. De nouveau, et à plusieurs reprises, il revoit ce fantôme, ce frère mystique qui est lui et vit en dehors de lui. C'est à partir de cette époque que la volonté de Gérard de Nerval sera alternativement et de plus en plus possédée par deux moi, l'un lucide, doux et serein, l'autre trouble, douloureux, parfois prophétique. Cette dualité, cas pathologique peut-être unique dans notre littérature, explique le mystère attachant, le caractère si particulier que prendront jusqu'à sa mort les créations de ce poète. Ses préoccupations intenses n'ont pas chassé de sa pensée le souvenir de Jenny Colomb. Paris lui devient insupportable. Il retourne en Italie. Sa bourse est peu garnie, mais il a appris des compagnons rencontrés sur les routes à voyager à peu de frais, d'auberge à auberge. Il revient dans sa ville natale pour repartir vers l'Alsace, les Flandres et la Hollande, envoyant ses impressions de voyage à quelques journaux. Il les narre à la façon d'une époque où il était de bon ton de faire de l'esprit et d'avoir toujours le cœur gai. Des croquis de ville, notamment Weimar, où il entend le Lohengrin de Wagner, sur lequel il établit une assez heureuse prophétie, s'y mêlent en une suite de pages pittoresques, d'une saveur exquise de plein air et révélatrice déjà de cette jouissance intime de la nature qui atteste que pour les avoir écrites, comme celle de la plupart de l'œuvre de Gérard de Nerval, il faut avoir marché, l'âme à vif, sur les routes, saluer l'aurore et contempler, loin des villes, le ciel de minuit. L'année 1840, il la passe en Autriche. Tâchez d'aimer le plus de femmes possible. Il n'y a que ce moyen de vous guérir, lui ont prescrit les médecins. Gérard obéit. sans anéantir l'obsession de celle qui le poursuivra jusqu'à ses derniers jours. Et, pendant plusieurs années, c'est une âme désemparée qui court les chemins, en quête de l'introuvable oubli. On est en 1841. Le poète a 32 ans. Aux assauts répétés de sa douleur, au tumulte de ses sentiments contradictoires qui le tiennent sans cesse en haleine entre le rêve et la vie, une sorte d'apaisement est venu. À force de vouloir vaincre les forces hostiles auxquelles il attribue son malheur, peu à peu, la réalité s'est soumise à son désir, trop soumise, elle s'est effacée. Ses yeux ne semblent plus prendre part qu'à des visions triomphantes. Et cela se passe à une telle profondeur de son être et dans un mystère si intime que ses plus proches amis sont loin de soupçonner l'exaltation qui le consume, tant ses dehors sont pondérés, ses manières douces, son raisonnement clair et brillant de ses improvisations. Bientôt, les erreurs commencent. Un jour, on le rencontre au palais royal, traînant un homard vivant à l'aide d'un ruban bleu. En quoi un homard est-il plus ridicule qu'un chien, qu'un chat, qu'une gazelle, qu'un lion, ou toute autre bête dont on se fait suivre, s'écrie-t-il, les yeux égarés à ceux qui le regardent avec étonnement. Ses amis le conduisent à la maison de santé du docteur Blanche, malgré ses protestations. Il y reste 8 mois. Sa crise fut toute de béatitude. Il quitta cette maison avec regret, au point que, peu après, au souvenir des esprits qu'il y fréquenta sous la forme de belles jeunes filles, il écrira « Je me mis à pleurer à chaudes larmes, comme au souvenir d'un paradis perdu. Là, je sentis amèrement que j'étais un passant dans un monde à la fois étranger et chéri, et je frémis à la pensée que je devais retourner dans la vie. » Sa folie, il en entretient tout le monde comme d'un rêve. C'est étonnant d'ailleurs qu'on ait vu de la démence là où il n'y avait qu'un cas de lucidité extrême. « J'ai rencontré hier Dumas, » écrit-il à Madame Alexandre Dumas. « Il vous dira que j'ai recouvré ce que l'on est convenu d'appeler la raison, mais n'en croyez rien. Je suis toujours, et j'ai toujours été le même, et je m'étonne seulement que l'on m'ait trouvé changé pendant quelques jours de printemps dernier. » Et plus loin, « J'ai fait un rêve très amusant, et je le regrette. Et j'en suis même à me demander s'il n'était pas plus vrai que tout ce qui me semble seul explicable et naturel aujourd'hui. Je me trouve tout désorienté et tout confus en retombant du ciel où je marchais de plein pied il y a quelques mois. Quel malheur qu'à défaut de gloire, la société actuelle ne veuille pas toujours nous permettre l'illusion d'un rêve continuel. Ainsi, nulle trace de déchéance, au contraire. Sa sérénité y est devenue extraterrestre. Son retour à la vie est la retombée d'un beau songe. Est-ce de la folie, cela? C'est cependant un cas que les aliénistes n'hésitent pas à qualifier de folie avec conscience. L'obsession d'une idée y accapare toute l'activité psychique du malade. Nulle incohérence dans ses pensées, mais simplement oubli de l'ambiance et transformation de tout ce qu'il voit et ressent au bénéfice de son incurable hantise. C'est l'abandon absolu d'une âme à son rêve. Une tare native existait au cerveau de Gérard de Nerval. Trop jeune, la lecture d'une foule d'ouvrages d'occultistes du XVIIIe siècle, entassés dans le grenier de son oncle à Montagny, lui avait fait absorber beaucoup de cette nourriture indigeste et malsaine pour l'âme, en augmentant sa propension au rêve le plus aigu. l'entreprise hardie en pleine adolescence de la traduction du Faust poursuivit l'œuvre néfaste. L'amour malheureux fit le reste. Jamais son intelligence ne fut plus lumineuse qu'en cet état. Il y écrira quelques-unes de ses pages les plus vives. Son mystérieux génie y sera le plus scintillant. C'est l'époque des premiers sonnets mystagogiques, dont l'obscurité mangée d'or, telle une atmosphère à la Turner, s'illumine de soudains éclats comme une idole constellée d'escarboucles et de rubis dans l'ombre d'une crypte. Fleur d'abîme aussi dangereuse à cueillir que la rose des Alpes, sur le bord du précipice, et que leur auteur évoquera plus tard lorsqu'il sanglotera cet aveu déchirant. La muse est entrée dans mon cœur comme une déesse aux paroles dorées. Elle s'en est échappée, comme une pitié, en jetant des cris de douleur. Le 1er janvier 1843, Gérard de Nerval s'embarque pour l'Orient. Comme tous ceux que passionne l'étude des religions vivantes et mortes, depuis longtemps le tourmentait la curiosité de ce berceau de la reine de Saba, du Christ et de Mahomet. Une raison plus captivante l'y attirait encore. Enrichi de nouvelles certitudes spirituelles, il allait y recommencer la poursuite de l'uniquement aimé. Jenny Colomb étant morte l'année précédente, il pensait s'initier en ce pays à de nouvelles pratiques qui lui permettraient de se mettre en communication efficace avec l'âme de la disparue. Il visite l'Égypte. Il y est témoin de marchés d'esclaves, de mœurs de fellahs et de mangeurs d'opium. Assiste à des noces arabes et à la cofte, entrevoit des harems, se gave l'esprit de religion et de légende. Bref, y contracte une superstition tout orientale. L'attention avec laquelle il observe le corbeau de ce pauvre ménage grec, rencontré sur le bateau qui fait route vers Saint-Jean d'Acre, nous en avertit. Il atteint le Liban, s'installe quelque temps chez les Maronites et les Druzes. Chez ces derniers, il rencontre la fille d'un cheik, une jeune beauté aux traits aquilins, blanche comme une Européenne, et dont les manières décèlent la haute naissance. Un air de fierté, tempéré par la grâce, répandait sur son visage quelque chose d'intelligent, et son sérieux habituel donnait du prix au sourire qu'elle m'adressa lorsque je l'eus salué. Le Liban n'est-il pas l'un des rares pays où l'on croit à la transmigration? Voilà Gérard, parti à trouver en cette jeune fille une incarnation nouvelle de l'aristocratique adrienne. La femme idéale, que chacun poursuit dans ses rêves, s'était réalisée. L'hésitation n'est plus possible. Cette fois, il ne perdra plus sa vie en d'interminables poursuites. C'est le bonheur, il faut le cueillir promptement. Il va demander au cheik sa fille en mariage. Après bien des difficultés résultant des différences de religion, la religion kurde est la seule qui ne se recrute pas, Gérard aplanit tout. En produisant un diplôme abondamment garni de signes kabbalistiques par lequel il établit sa qualité de fils de franc-maçon français et par conséquent de descendant direct des Templiers qui occupèrent jadis le Liban. Le cheik consent. Au dernier moment, Gérard se ravise. Le souvenir d'un escarbot rencontré sur le sol du chemin qu'il foulait, d'un pied superbe, au lendemain du jour où il sentit son cœur s'enflammer pour la jeune druze, et dans lequel il vit un mauvais signe augural, n'est pas sans avoir eu un peu de part dans l'abandon de ses projets matrimoniaux. Pris d'un accès de fièvre, il gagne Constantinople, d'où il rend sa parole à sa fiancée, et rentre bientôt en France. des longues pérégrinations de l'écrivain en ces pays, est née la suite d'impressions qui parurent d'abord en 1848 et 1850, sous le titre de « Scènes de la vie orientale » et de « Nuit de Ramazan », et qui formèrent plus tard les deux volumes du « Voyage en Orient ». Mieux que dans n'importe quelle autre de ses œuvres, se signalent ici, en plein épanouissement, les qualités de fantaisie et de bonne humeur qui valurent à Gérard de Nerval le surnom de « Sterne français ». On y est séduit à la fois par ce ton modeste, cette naïveté enjouée, l'entrain de ce style parlé, délicat et charmant, et la façon adroite avec laquelle ce pudique s'est, à l'occasion, gazé, tel un conteur léger du XVIIIe siècle, les observations les plus licencieuses qu'entraînent nécessairement un reportage sincère des mœurs de l'Orient. Témoin, ce chapitre consacré à Karagès. À lire aujourd'hui ces pages révélatrices d'un esprit clair et dégagé de tout souci, on pourrait croire Gérard définitivement guéri. N'était de temps à autre une phrase de trouble ferveur, une allusion mystérieuse venant nous renseigner sur le mal latent qui mine notre poète. Son absence avait duré un an. Il revint de ses voyages, raconte Théophile Gautier, plus imbu encore d'idées de cabale, de magisme, d'initiation mystique. Il but de longs traits à ces coupes vertigineuses que vous présentent les sphinx, dont l'indéfinissable sourire de granit rose semble railler la sagesse moderne. Les cosmogonies et les théogonies, la symbolique des sciences occultes, occupèrent son cerveau plus qu'il ne l'aurait fallu. Et souvent, les esprits les plus compréhensifs ne purent le suivre au fait des babels qu'il escaladait, ou descendre avec lui dans les syringes à plusieurs étages où il s'enfonçait. À partir de cette époque, le pittoresque de sa vie s'accroît encore. Gérard possède plusieurs logis, dont l'un à Montmartre. Il n'habite pas plus les uns que les autres. Atteint de cette manie ambulatoire qui harcèlera plus tard le poète Arthur Rimbaud, sans arrêt, il sillonne de ses courses Paris et la campagne environnante. Son octambulisme devient constant. Il vit affamé de plein air, de solitude, sous la voûte des belles nuits. Quelle bonne promenade, en effet, que celle des buttes Montmartre à minuit, quand les étoiles scintillent. On devine aussi dans cette exclamation que les carrières de ce quartier, toujours aimé des poètes, durent souvent lui fournir le lit que rien ne l'obligeait à descendre chercher plus loin. N'est-ce pas lui-même, ce vagabond qu'il surprend du côté de Clichy, prenant un honnête repos allongé dans un énorme tuyau à gaz? Et cette vie, il ne la menait pas par misère, car toujours il put compter sur son travail et la bourse de ses amis. Mais pour complaire à sa fantaisie d'homme sans besoin matériel et de vrai poète, ne sachant bien vivre que seul, en la compagnie jalouse de ses chimères. Durant des semaines, ses amis ne savaient ce qu'il était devenu. Jusqu'à l'aube où, frappant à la porte de l'un d'eux, il venait lui raconter, avec son inoubliable voix douce et en le fixant de ses yeux étoilés de lueurs bleues, le récit embelli de ses solitaires pérégrinations. Qui de nous, écrit Théophile Gautier, n'a arrangé 10 fois une chambre avec l'espoir que Gérard y viendrait passer quelques jours? Car nul n'osait se flatter de quelques mois, tant on lui savait le caprice errant et libre. Comme les hirondelles quand on laisse une fenêtre ouverte, il entrait, faisait 2 ou 3 tours, trouvait tout bien et tout charmant, et s'envolait pour continuer son rêve dans la rue. parfois consent-il à se reposer quelques heures en plein jour sur le divan d'un ami, mais il est bientôt reparti. Le but que poursuit cet infatigable itinérant n'a pas changé. C'est toujours l'âme idéale dont la fugitive Adrienne lui a fourni le type terrestre qu'il recherche. Sa hantise le possède au milieu des plus vulgaires contingences. Un soir, dans une goguette de faubourg où des amateurs chantent de leurs œuvres, la voix pure d'une jeune fille le fera profondément tressaillir. C'est elle, la sirène. Tu chantes au bord des abîmes, comme les cygnes de Léda, murmure-t-il dans la joie de son ravissement. Mais la pensée que cette adorable voix native est sans doute destinée aux mortifiantes leçons d'un maître de chant l'accable d'un désespoir sincère. Tu ressembles au séraphin doré du Dante, rêve-t-il, qui répand un dernier éclair de poésie sur les cercles ténébreux, dont la spirale immense se rétrécit toujours pour aboutir à ce puits sombre où Lucifer est enchaîné jusqu'au jour du jugement dernier. Et il quitte l'endroit, accablé, sentant se rouvrir la blessure de son cœur malade d'absolu. Adieu, adieu, et pour jamais, adieu. À aucun moment de sa vie, plus qu'en cette période vagabonde, la production littéraire de Gérard de Nerval ne fut aussi abondante et variée. Goûté du public, il est vraiment maître à cette heure de la renommée honnête et loyale dont nous entretient Jules Janin. Incapable de la moindre discipline, de la plus petite opération financière, il ne sait ou ne pense guère à en profiter. Car, ainsi que nous l'a confié Théophile Gautier, jamais l'amour de l'or ne troubla cette âme pure, qui voltigea toujours, comme un oiseau, sur les réalités de la vie sans s'y poser jamais. Les louis lui causaient une sorte de malaise et semblaient lui brûler les mains. Il ne redevenait tranquille qu'à la dernière pièce de 5 francs. Sans parler de nombreux articles de fantaisie qu'insèrent divers journaux et revues, il réunit en volume son œuvre éparpillée. Les Faux Sauniers, qu'il publie en 1851, sont une sorte d'essai de roman historique, une concession au goût du jour, et se ressentent de la fréquentation amicale de Dumas. Les Illuminés, parus l'année suivante, forment une suite d'études sur les plus célèbres pratiquants des sciences occultes au XVIIIe siècle. Rien d'original ne frapperait en cette œuvre, dont la plupart des pages ne sont pas supérieures aux compilations de nos ordinaires polygraphes, si elle ne nous rappelait l'inclination toujours active de Gérard pour tout ce qui touche au merveilleux. Cependant, l'étude de Cazotte, qui, à un dîner fameux, prophétisa, suivant la harpe, les plus tragiques événements de la Révolution imminente, est empreinte d'une certaine grandeur lugubre. Et le cas de Quintus Auclair, cet avocat d'Argenton, qui célébrait chez lui les rites anciens, et par la publication de sa Tréhissie, invita à une restauration nationale du paganisme au moment où la Révolution avait fait en notre pays table rase de tous les cultes, était bienvenu pour séduire celui qui, un soir, chez Hugo, affirmait avoir foi en plus de 17 religions. De même, l'histoire sensuelle de l'adolescence et de la jeunesse de Rétif de la Bretonne devait tenter cet admirateur de Rousseau et de ses disciples que Gérard fut toute sa vie. Mais la partie la plus attachante du volume n'est-elle pas, en ce qui regarde la personnalité étrange de Gérard, celle intitulée « Le roi de Bicêtre », étude d'un double du roi de France Henri II qui dut particulièrement passionner son auteur. Gérard fréquente les lieux les plus sinistres. À force de l'y rencontrer, la police le surveille et ses amis, craignent pour lui un mauvais coup de la part de ses patibulaires compagnons, très capables de prendre pour un mouchard cet inoffensif poète qui porte une redingote et sans cesse crayonne sur de petits morceaux de papier. Le quartier des Halles est celui de sa prédilection. Le grouillement de sa vie nocturne l'y attire. Là, souvent, se passent ses nuits, et l'aurore le surprend, tantôt chez Barat, tantôt chez Paul Niquet, ou plus simplement devant l'éventaire fumant d'une marchande de soupe. Le carreau des Halles, à cette heure, n'est-il pas vraiment représentatif de la personnalité bucolique et mystique de Gérard de Nerval, avec son assemblée de paysans et de revendeuses, dominée par le sombre vaisseau de Saint-Eustache et la colonne cabalistique construite pour Ruggieri, l'astrologue de Catherine de Médicis. Là, il réentend l'élocution familière du terroir aimé. Il subodore avec le parfum des fleurs qu'on y apporte les senteurs des légumes et des fruits potagers. Ses meilleurs souvenirs renaissent à écouter les paysannes qui, sous la lueur dorée des lanternes, apprêtent leurs étalages en chantant de vieilles chansons. Parfois, il y tressaille. La marchande de pommes qui psalmodie la complainte de sa profession n'est-elle pas encore une sirène? Le jour, il est fréquemment l'hôte de Montmartre, non d'un Montmartre hérissé de laides bâtisses et coiffé de la lourde église forteresse à multiples tiares qui pèse agressivement sur Paris, mais d'un Montmartre idyllique, à jamais perdu, plein de haies, que l'épine vinette décore tour à tour de ses fleurs violettes et de ses baies pourprées, d'un Montmartre de moulins, de cabarets, de tonnelles, d'élysées champêtres, de jardins touffus, d'un Montmartre où les sources filtrent dans la glaise, et où s'ébattent des chèvres qui brouillent la cante suspendue au rocher, et que surveillent, sans abandonner leur jeu, des petites filles à l'œil fier, aux pieds montagnards. D'un Montmartre, encore possesseur d'une vigne, que Gérard regrette amèrement de ne pas avoir achetée du temps qu'il était riche, et où il eut fait construire une petite villa dans le goût de Pompéi, avec un impluvium et une kella. Gérard de Nerval est le dernier poète des rusticités parisiennes. Mais le regard toujours tourné vers un passé captivant, le plus qu'il peut, il s'évade de la cité. Par la route de Flandre, par Pantin, il gagne les lieux qui lui tiennent tant au cœur. Dammartin, Ermenonville, Mortefontaine, Senlis. Les chemins de la grande banlieue n'ont pas de secret pour cet inlassable marcheur. Il y fait, de temps à autre, la rencontre de la maréchaussée, cette terrible némésis au chapeau brodé d'argent. L'Île-de-France le tient, prisonnier enchanté, dans le réseau de ses routes adorables. Aussi, qu'il parte pour l'Italie, les Pays-Bas ou l'Allemagne, voire même l'Orient, toujours son retour s'effectuera par le Valois, avec l'accomplissement d'un pèlerinage pieux au tombeau vide de l'île aux peupliers. À Meaux, un certain soir, sous l'effet des excitants, bière de Mars et punch, des gnomes lui travaillent le cerveau à la manière allemande. Cela nous vaut une inquiétante page hoffmanesque. Un beau jour, il finit par se faire arrêter, faute de papier, à Crépy-en-Valois, pour cause de vagabondage et de troubadourisme exagéré. Troubadourisme exagéré. N'est-ce pas là providentiellement sous sa plume l'exacte qualification de la vie de Gérard de Nerval ? Et ce sont toutes ces heures vécues à l'aventure qui nous lègueront l'inimitable et savoureuse fantaisie des nuits d'octobre, des petits châteaux de la Bohème, des promenades et souvenirs, et de tant d'autres exquises impressions formant les pages souvent relues de la bohème galante. Mais de plus en plus, Gérard de Nerval est possédé par cette inquiétude, ce désir de changer de place, de fuir les hommes et de se fuir lui-même, qui harcèle les grands mélancoliques, éteint si fort Watteau, cet autre enchanteur au génie si frère du sien vers la fin de sa vie. L'étrange ardeur de son regard révèle l'intensité de sa combustion cérébrale. En dépit de ses allures extravagantes, il tient toujours ses amis sous le charme de sa douceur et l'intérêt de sa conversation transcendante et lucide. Un soir, dans la rue, marchant depuis quelques instants, les yeux fixés vers une étoile, il s'arrête, se déshabille, disperse ses vêtements autour de lui, puis, étendant les bras, attend, immobile, le moment où son âme se séparera de son corps, attirée magnétiquement dans le rayon de l'étoile. Une patrouille le cueille à son extase et le mène au violon. Sa vie devient frénétique. On le voit courir à ras du sol, agitant ses bras comme des ailes. Sa raison se trouble encore. Le jour, il est en proie à des hallucinations. Des cauchemars peuplent ses nuits. Le travail lui devient difficile. À plusieurs reprises, il veut se suicider. Par deux fois, en 1853, il est contraint d'aller faire un séjour chez le docteur Blanche, puis à la maison Dubois. C'est au sortir de cette dernière qu'il compose Sylvie, son chef-d'œuvre, ce miracle si clair, d'élégiaque et émouvante sensibilité française. Quelques jours après sa publication dans la revue des Deux Mondes, Gérard est pris, en pleine rue, d'une crise si furieuse qu'on le mène à l'hôpital le plus proche pour lui passer la camisole de force. On le conduit ensuite chez le docteur Blanche. Ce n'est plus la démence heureuse de sa première crise. Une douleur sombre le consume. Une fois remis, il part pour l'Allemagne. Il ne rentre à Paris que pour aller faire un nouveau séjour à la maison de Passy. Bientôt, à ses supplications, on lui rend la liberté. Il repart encore pour l'Allemagne. D'une lettre adressée à un ami, il ressort que, malgré les dérivatifs joyeux qu'il cherche en ce pays, ses souffrances cérébrales n'ont pas cessé et que l'inquiétude sur ses facultés créatrices l'obsède. En 1854, paraissent les filles du feu. Le désordre de la vie du poète est à son comble. Il n'a plus de domicile connu, travaille sur des tables de cabaret, des bouges l'hébergent. C'est dans cet état d'angoisse morale que, cédant des visions douloureuses ou enchanteresses, entrevues dans ses divers accès de démence, des sensations de ce qu'il appelle sa deuxième vie, il compose Aurélia, ou le rêve et la vie, sorte d'autobiographie où il essaiera, dit-il, de transcrire les impressions d'une longue maladie qui s'est passée tout entière dans les mystères de mon esprit. Ouvrage singulier, serein et déchirant, que Gérard de Nerval appelle lui-même avec une stupéfiante tranquillité l'épanchement du songe dans la vie réelle, mais que Théophile Gautier a plus véridiquement qualifié la raison écrivant les mémoires de la folie sous sa dictée. Journal impitoyable du dernier conflit du moi réel et du moi mystique de Gérard de Nerval, parmi les circonstances malheureuses de la passion qui l'a tué. La première partie, en parue dans la Revue de Paris, le 1er janvier 1855. L'existence la plus tragique occupe les derniers jours du poète. C'est l'hiver, un hiver dur. Presque constamment, la neige tombe. Des glaçons heurtent avec fracas les piles des ponts de la Seine. Seulement vêtu d'un mince habit noir, Gérard de Nerval, livré à une exaltation qui seule l'empêche de trembler de froid, erre par la ville, fuyant le mal qui veut enfin le vaincre. Devant ses amis au désespoir, en d'étranges improvisations, sa belle intelligence jette ses derniers éclats. Le 20 janvier, il tire de sa poche devant Théophile Gautier et Maxime Ducamp le cordon d'un tablier de cuisine. C'est la ceinture que portait Madame de Maintenon quand elle faisait jouer Esther à Saint-Cyr, le rassure-t-il. Le 24, il écrit à un de ses amis « Viens me réclamer au Châtelet ». Il avait passé la nuit dans un bouge des Halles et s'y était fait prendre dans une rafle de vagabonds. C'est à peine, confesse-t-il dans une autre lettre, si je peux écrire 20 lignes par jour, tant les ténèbres m'envahissent. Aveu terrible qui éclaire à jamais le mystère de sa fin. Dans la nuit du 25 janvier, vers 3 heures du matin, il s'engage, tout près du Châtelet, dans l'horrible et fétide petite rue de la Vieille Lanterne, depuis démolie, qui conduisait par un escalier de 12 gluantes marches à une autre voie, non moins épouvantable, la rue de la Tuerie. Le froid est intense, la solitude affreuse, la neige couvre le sol. Gérard, comme de coutume peu vêtu, s'arrête devant un asile de nuit où il a souvent trouvé un gîte. Longtemps, il frappe à la porte. Dort-on au refuge? N'y a-t-il plus de place? On ne lui répond pas. Quelques heures plus tard, à l'aube, des maraîchers revenant des Halles le découvrent pendu. Un lacet, le cordon du tablier qu'il exhibait comme étant la ceinture de Madame de Maintenon, liait sa douce tête chimérique à un barreau de soupirail, presque au-dessous de la clé qui servait d'enseigne à un serrurier. Et tout à côté, la grille d'un égout. Ses pieds effleuraient le sol. Et pour que rien de nervalien ne manquât à cette mise en scène affreuse, on se rappela qu'un corbeau, qui semblait le double de celui qu'avait rencontré le poète sur le pont du bateau le conduisant vers la Syrie, sautillait habituellement sur les degrés de l'escalier boueux, en croassant, sinistre, les deux seuls mots qu'il eût pu retenir. « J'ai soif ». Un érudit a établi que la boîte du souffleur du théâtre Sarah Bernhardt occupe à peu près l'endroit où s'évada de la vie une des plus belles âmes nuancées que notre race ait vu naître. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis la mort lamentable de Gérard de Nerval. Et si la légende douloureuse du poète s'est transmise religieusement, rien n'a diminué l'attirance de son œuvre. Certes, de nombreuses pages faciles, les unes témoignant de la part de leur auteur d'un certain penchant à la polygraphie, d'autres de ses efforts à faire la grimace spirituelle de son époque y abondent. Parfois même, une grande négligence dépare ses plus captivantes productions. Mais, lorsqu'on sait que Gérard de Nerval, plus qu'aucun de ses contemporains, autant peut-être que beaucoup d'écrivains de la présente génération, dut à la fois s'astreindre pour vivre et servir l'amitié à toutes sortes de besoins journalistiques, lutter contre le joug de malheurs qui accablaient sa vie, et se mêler à une société de rhéteurs, dont les bruyants succès durent souvent paralyser l'essor de son génie timide et délicat, la sévérité du pire des censeurs ne peut guère s'exercer. Cherchons donc à isoler en cette œuvre abondante ce qui nous semble le plus capable de durer autant que notre langue, et fait en quelque sorte de Gérard de Nerval, sinon un des plus grands, pour ceux qui s'en laissent imposer par les mises en scène de la rhétorique, du moins le plus sincère, le plus pur et le plus natif des poètes de son temps. Gérard de Nerval est un écrivain de plein air, Son style est d'un touriste. Il note sur le vif, naïvement et ingénieusement à la fois, cède d'abord à une inoffensive manie de folkloriste ou d'historien. Mais bientôt, sous l'effet d'une correspondance qui s'établit entre lui et le paysage, nous livre son âme, s'attendrit, s'arrête, se redresse et repart avec un trait dont une touche malicieuse relève parfois la candeur, pour s'abandonner encore et malgré lui à un besoin de confidence dont peu d'écrivains connurent l'inclination. Il va. Tous ses sens collaborent en aimable harmonie, et ses pensées ont le rythme qui anime celle du compagnon allongeant le pas, lyrique, sur la route. En outre, comme notre La Fontaine, il possède toute qualité d'absence qui le font se mêler à ce qui l'entoure. Aucune préoccupation sociale n'existe dans son œuvre. Ce poète sentimental ignore les hommes tout en les chérissant. Il ne semble bien connaître que les esprits de l'air. Il aime les ruines du passé, les lieux chargés de souvenirs, le pittoresque et les gens simples. Un enjouement fait de sincérité et d'intime grâce, voilà le prestige dont tous ses amis subirent l'enchantement. Keats familier, Heine sans ironie, Gérard de Nerval, et le dernier troubadour de la douce France. Comme il doit à l'influence allemande d'avoir parfois aiguillé sa pensée vers des préoccupations métaphysiques, bien de ses nuances sont d'emprunt. Elles lui viennent de la fréquentation passionnée de certains conteurs du XVIIIe siècle. Elles n'influent pas sur le fond de sa propre nature. Les deux maîtres de sa sensibilité sont irrécusablement Jean-Jacques Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre. Les rêveries du promeneur solitaire lui donnèrent le timbre ému de ses concertos. Les études de la nature sont penchant à une sorte de religiosité attendrie. Mais des paysages de l'Île-de-France lui vint la grâce essentielle de son style fin et doux d'une nuance argentée. Tout le charme nervalien est inclus en des phrases mélodieusement évocatrices ou discrètement empreintes de bonhomie ou d'insinuant mystère. Un vieillard passe. Il m'a semblé voir mon grand-père. Il parle. C'est presque sa voix. Cette jeune personne a les traits de ma tante morte à 25 ans. Une plus jeune me rappelle une petite paysanne qui m'a aimée, qui m'appelait son petit mari, qui dansait et chantait toujours, et qui, le dimanche, au printemps, se faisait des couronnes de marguerites. De temps à autre, une constatation ingénue éclaire ce grand coureur de tous les chemins. Quoi qu'on puisse dire philosophiquement, nous tenons au sol par bien des liens. Mais ce n'est pas seulement à lire Jean-Jacques ou Bernardin qu'il s'est imprégné de tant de grâce occidentale. En passant près du prieuré, j'ai remarqué un groupe de petites filles qui s'étaient assises sur les marches de la porte. Elles chantaient sous la direction de la plus grande, qui, debout devant elles, frappait des mains en réglant la mesure. C'est surtout par son affection fidèle pour la terre faite de ses meilleurs souvenirs qu'il nous gagne. Je ne sais si je suis victime d'une illusion. Je n'ai pu rencontrer encore une fille laide à Senlis. Rousseau, dans son aveuglement, n'en disait-il pas autant des filles de Chambéry? Parfois, une odeur le fait tressaillir pour des raisons profondes qu'il nous laisse le soin émouvant de découvrir. Nous sommes partis de Senlis à pied, à travers bois, aspirant avec bonheur la brume d'automne. Il faudrait citer tout Sylvie, et des observations comme celle-ci qui ne peuvent éclore qu'en une sensibilité aiguë et cultivée, raviront toujours des âmes artistes. Le voyage à Cythère de Watteau a été conçue dans les brumes transparentes et colorées de ce pays. C'est une citerre calquée sur quelques îlots de ces étangs, créés par les débordements de l'Oise et de l'Aisne, ces rivières si calmes et si paisibles en été. Hélas, vouloir isoler la grâce nervalienne, cette chose subtile qui réside autant dans le sourire du mot que dans le tour de la phrase, cet état du fiancé, cette fantaisie dorée, cet esprit, ce cœur est peine perdue. C'est le secret des grands écrivains, la satisfaction du mystère atteint, le rayonnement de leur sincérité. Enfin, le plus beau titre de la gloire de Gérard de Nerval est de nous avoir laissé les vers dorés et les chimères. Déjà, en de ronsardisantes odelettes, chansons et rondeaux, avaient préludé ces pipeaux frais et attristés. Plus subtilement, allait nous solliciter l'accent séraphique des Cydalises et celui de quelques petits poèmes aux inflexions révélatrices d'un mode nouveau. Écoutez, si dans l'évocation de cette blonde aux yeux noirs en ses habits anciens, que dans une autre existence peut-être j'ai déjà vue et dont je me souviens, ne sonne pas déjà profond et nostalgique le corps dont nous enchantera le poète des romances sans paroles. Mais c'est en des vers de mélancolie, en la trouble somptuosité de sa fièvre de poète, d'amant incompris, que s'épanouira la fleur la plus rare de son inquiétant génie. Des qualités de grandeur et de véhémence, inconnues jusque-là chez Gérard de Nerval, s'y déploieront suprêmes et fugitives. Quel poème de malédiction est comparable à El Desdichado, ce blason de haute noblesse lyrique et de destin accablé. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans l'étonnement de son infortune, avec un cœur si bien fait pour l'adoration, il soupirera. Suis-je Amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. D'autres vers signifieront sa croyance aux anciens mythes, cris de douleur, de passion, même de blasphème. Les symboles s'y uniront aux oracles, aux nombres fatidiques. Son verbe s'y allumera des couleurs du soufre et de l'azur. Et de nuages sombres, aux appels de sa lyre apollinienne, ressusciteront, lumineuses, les présences farouches de Myrtos, d'Antéros, de Delphica et d'Artémis. D'autres témoigneront d'une foi panthéiste que 20 ans plus tard, Baudelaire exprimera peut-être avec plus de relief, mais non avec plus de ferveur. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Insistons particulièrement sur l'éloquence orageuse et sibylline des 5 admirables sonnets du Prométhéen Christ aux Oliviers. Enfin, la mystérieuse exaltation de son âme exaltera parfois dans une féerie de sentiments obscurs et de brûlantes couleurs où d'humbles vocables se transfigureront comme s'ils avaient été placés par des doigts de phosphore. Sainte Napolitaine, aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de Sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche, tombée, vous insultez nos dieux. Tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle. La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. Vers de fièvre, d'énigmes captivantes, et dont les seules lueurs capiteuses importent pour nous. mais rare fut chez Gérard de Nerval l'intensité de pareilles strophes, où l'on sent passer dans l'illumination de l'âme et des sens du poète un frisson sacré. Vers de visionnaire, écrit dans la langue d'un état de crise, que réclamera un jour le poète d'Hérodiade pour les plus souveraines créations de la poésie. Ne l'oublions pas, nous sommes en 1841. Poe n'a pas encore été introduit en France. L'auteur des Fleurs du Mal a 20 ans. Mallarmé, Verlaine sont à peine nés. Rimbaud ne verra le jour qu'en 1854. Et nous ne pouvons que rappeler les anxieux poèmes en prose qui composent son œuvre la plus suggestive, Aurélia ou Le rêve et la vie. Cette ruine d'un temple merveilleux, d'où se retirent les derniers feux d'un soleil jaloux. D'autres raisons rendent Gérard de Nerval non moins cher aux écrivains de l'heure présente. À travers sa douceur, on le découvre le seul vrai révolutionnaire de sa génération. Très jeune, il dénia la vie à ceux des écrivains qui s'enfermaient dans les contours stricts d'une forme involontaire. Il s'insurgea contre cette sévère rime française. Elle, qui devait avoir encore après lui une si longue suite de mortifiants disciples. Loi, tout ce qui peut restreindre sa tyrannie. La rime riche est une grâce, sans doute, mais elle ramène trop souvent les mêmes formules, constate-t-il. Elle rend le récit poétique ennuyeux et lourd le plus souvent, et est un grand obstacle à la popularité des poèmes. En opposition, il croit aux ressources inépuisables de l'assonance, prétend même qu'il est possible de ne pas rimer en poésie, et préconise l'emploi des longues et des brèves à la manière antique. Aussi désigne-t-il la chanson populaire comme notre unique source de renouveau. Il déplore que nos séculaires complaintes issues de la langue du berger, du charretier, du marinier ne soient pas reprises par un grand poète et menées jusqu'au chef-d'œuvre, ainsi que le firent, pour celles de leur pays, quelques poètes allemands et anglais. Est-ce la soif mélancolique de l'idéal qui manque à ce peuple pour produire des chants dignes d'être comparés à ceux de l'Angleterre et de l'Allemagne, s'écrie-t-il. Et il met le doigt sur la plaie. Non, certes, mais il est arrivé qu'en France, la littérature n'est jamais descendue au niveau de la grande foule. Les poètes académiques des XVIIe et XVIIIe siècles n'avaient pas plus compris de telles aspirations, les chansons populaires, que les paysans n'eussent admiré leurs odes, leurs épîtres et leurs poésies fugitives, si incolores, si surannées. En outre, ils se révoltent que l'on ait perdu tant de siècles à chanter sur une lyre issue d'autres mains que les nôtres, des légendes étrangères. Alors que nous n'avions qu'à nous pencher sur notre âme et les fleurs abondantes et merveilleuses de notre terroir. On ne s'est pas contenté d'introduire le poème antique. On a voulu qu'il dise l'histoire des anciens et non la nôtre. La tragédie, on a voulu qu'elle ne célébrât que les infortunes des illustres familles d'Œdipe et d'Agamemnon. On a amené la poésie à ne reconnaître et à n'invoquer d'autres dieux que ceux de la mythologie. En un mot, cette expérience, présentée comme une conquête sur les étrangers, n'a fait, au contraire, que les amener vainqueurs dans nos murs. Elle a tendu à effacer petit à petit notre caractère de nation, à nous faire rougir de nos usages et même de notre langue au profit de l'Antiquité. Paroles pourtant si justes et sur lesquelles tant d'esprits sont encore divisés aujourd'hui. On comprend, après cela, pourquoi tant de poètes de la génération nouvelle ont choisi, avec la sûre divination de la jeunesse, Gérard de Nerval comme un de leurs plus indéniables précurseurs. il fallut qu'une longue suite de rimeurs virtuoses épuisât les dernières ressources des vieilles lois, pour que se montrassent les vrais fils de ce merveilleux artiste, qui, bien qu'amant du passé, eut la perception de l'avenir. Tant de lucidité l'ennoblisse à jamais à nos yeux. Et de plus, il souffrit. D'aucuns diront que sa souffrance fut dorée par les mirages calmeurs d'un inlassable optimisme, qu'il eut la consolation de son art. Désabusons-les en leur rappelant cet aveu qu'il grava pour son tombeau, ce cri ultime de sa grande âme désolée. Il voulut tout savoir, mais il n'a rien connu. Et quand vint le moment où, las de cette vie, un soir d'hiver, enfin, l'âme lui fut ravie, il s'en alla, disant « Pourquoi suis-je venu ?» Qu'il dorme en paix. Pour nous, il est venu, riche de ses seuls yeux tranquilles, vers un monde indigne de ses rêves. Et si quelques-uns des hommes des grandes villes ne l'ont pas trouvé malin, dans le sens que ses positifs attribuent à ceux qui s'écartent de leurs grossières aspirations, il représente pour notre culte une des plus émouvantes images du poète. Une intelligence pure, unie à une âme pleine de noblesse, de fantaisie et de bonté, sanctifiée par la douleur. Ne le plaignons plus. Si Gérard de Nerval ne rencontra pas le bonheur en son rapide passage sur la terre, il put transcrire immortellement la plupart de ses adorables visions. Couronné d'encolis, d'églantines et de violettes des bois de sa petite patrie, le Valois, sa douce figure s'éclaire de plus en plus. Et pendant que d'autres renommées plus brillantes disparaissent dans l'oubli, nous assistons, pieux, au grandissement pour lui de cette gloire qui, ainsi qu'il l'exprimait un jour au sujet du poète de l'intermezzo, pour la plupart des poètes ne fleurit que sur leur tombeau. Henri Strens.